Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Obladi, Oblada, les Beatles de la critique. J'ai nommé Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, Daniel Eman de Bande à Part avec Eric Neuf du Figaro. Bonsoir Eric. Et avec Pierre Murat-Pierrot de Télérama.fr. C'est ce que tu m'avais dit de préciser. Voilà, pour parler ce soir de trois films où il sera question de musique, pas de la même qualité. Yesterday de Danny Boyle, Teen Spirit de Max Minghella et Yves de Benoît Forjard. Mais on parle également de La femme de mon frère de Monia Chokri, de The Mountain à la demande de Xavier de Rilke Alverson, de Pauvre Georges de Claire Devers et à la demande de Pierre de Spider-Man. Oui. De John Watts dans le courrier de la semaine. Message très sévère pour, je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, pour Sibyl de Justine Trier qu'on a vu à Cannes, pour Cathy Marnier de Nogent. Sibyl est un navet sans intérêt. Virginie Efira surjoue et Adèle Exarchopoulos nous fatigue à chialer tout le temps. La réalisatrice aurait dû faire comme dans le film, c'est à la fin, sauter à l'eau avant la fin du tournage. Oui. Alice Piano, mon Dieu, quelle purge Sibyl. À l'image de la scène où un assistant bombarde la psy réalisatrice, tout est ridicule, risible, grotesque. Pour Mona Hamzar, c'est un pudding indigeste, totalement dénué d'humour et très démodé. Christian Bonneau est profondément déçu par Sibyl. Qu'est-il arrivé à Justine Trier? Son film nous a ennuyés, ma compagne et moi, le long de ses 100 minutes interminables et des scénettes mal construites, mal écrites, mal dialoguées. Éric Lamothe trouve le scénario abracadabrantesque et le personnage joué par Virginie Efira absolument pas crédible. Quant à Adèle Exarchopoulos, bonjour tristesse. Pourtant, Sibyl est sauvée par Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon, film jouissif, sulfureux. Exarchopoulos est bluffant dans ce rôle d'actrice à la dérive. Et pour Léa Jeanne Lançon, ce que certains ont pris pour fouillis et longueur, je les ai reçus comme profusion et richesse. Ce film rend toute la complexité d'une vie d'une personne. C'est les seuls pour, hein. En pourcentage, c'est beaucoup moins. Éloge épique pour le jeune Ahmed des Frères Dardenne. Pierre Cusor salue 1h30 de leçons d'écriture scénaristique et cinématographique du grand cinéma qui vaut largement le prix de la mise en scène à Cannes. Lionel Simon de Bordeaux s'étonne que Jean-Marc Lalanne ait trouvé la fin du film punitive. Non, cette fin est une issue morale, la seule possible. Laurent Hérault a préféré le jeune Ahmed des Dardenne à l'Adieu à la nuit de Téchiney. Le film des Dardenne est très concret, ce qui ne l'empêche pas d'être stylisé. Pour Florence Van Rechem, c'est exactement le contraire. Je n'ai pas été touché par le jeune Ahmed. Ce jeune homme m'a agacé. Sur le même sujet, j'ai préféré, et de loin, l'Adieu à la nuit de Téchiney. Arnaud Sanquer nous dit « Le jeune Ahmed m'a laissé de marbre, un comble, face à un sujet si abrasif, je l'aurais oublié bien vite. » Et ça me désole, Isabelle Chalindard de Villard partage l'avis d'Éric Neuhoff. « Ce film n'a pas plus de saveur qu'une biscotte sans sel. Je trouve que le cinéma des Frères Dardenne ressemble à des documentaires et en plus, ils s'y mettent à deux pour faire ça. De loin, je préfère les frangins Cohen. » Et enfin, Isabelle Biver, qui nous écoute depuis Bruxelles, nous aide, c'est assez utile si on se promène dans la rue, surtout en Belgique, à reconnaître les Frères Dardenne. Alors Jean-Pierre est le plus âgé, il a le plus de cheveux, c'est aussi le plus discret. Il vit à Liège, Luc sourit, il parle beaucoup, il vit à Bruxelles. Et ici, ils sont tous les deux profs de scénario à l'université locale. Merci Isabelle Biver de ces renseignements. Allez, on commence justement avec Yesterday, un film signé Danny Boyle, le réalisateur, vous le savez, de Trainspotting, sur un scénario de Richard Curtis, à qui on doit celui de 4 mariages et un enterrement. Et c'est avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, et le postulat est celui d'une uchronie parfaite, puisque le film décrit un monde, est-ce que tu imagines ça, Daniel, où les Beatles n'auraient jamais existé. Non, je te demande d'être chaud, mais bon. Hein. Donc, il faut essayer d'imaginer ce monde sans les Beatles. Jack Malik, c'est donc Himesh Patel, abandonne le rêve de faire carrière dans la musique, malgré l'insistance de sa meilleure amie, qui est jouée par Lily James, qui le pousse pourtant à continuer. Et puis après, des problèmes, panne de courant, choc violent avec un bus. Jack sort du coma avec deux dents en moins et une chanson, Yesterday, qu'il interprète à la guitare. Et comme personne ne connaît les Beatles, c'est pour cause, il reprend leur chanson et va connaître un succès mondial. À mon avis, le réalisateur de Slumdog Millionaire va encore faire un carton. Je quand même précise, c'est comme Elton John, que le film a été fait avec l'accord de McCartney, de Ringo Starr et des héritiers de John Lennon et de George Harrison. Xavier.
Alors, la grande qualité, peut-être la seule qualité du film de Danny Boyle, c'est que ce metteur en scène, qui nous a habitués quand même à une mise en scène très trépidante, très très sautante, a découvert au bout de 35 ans de carrière le plan fixe. Et là, subitement, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression d'être torturé comme on l'était par les films précédents où il y avait toujours des effets de style, des machins, des trucs. Là, il raconte...
Le point ultime étant Trainspotting quand même, dans le genre.
Trainspotting, Slumdog, le millionnaire, était Slumdog, quand même bien hystérique. Hein, bien. Ouais. Donc là, pour une fois...
Il y en avait un calme, le type qui était tombé dans une crevasse pendant 122 heures. Là.
Ouais, mais c'était James Franco, du coup on s'en foutait, il n'y avait aucune empathie possible, on avait qu'une envie, c'était de le laisser là où il était. Donc là, mise en scène plus classique, plan fixe, tranquille... Et donc, il filme le scénario. Et c'est dommage pour lui parce que le scénario ne tient pas très longtemps la route. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris...
C'est une fable, en fait.
Oui, c'est ça. Mais 2 heures pour avoir la version longue de la bande-annonce, c'est beaucoup, quand même. Hein. Donc, il découvre
Il y a les chansons.
Voilà. Non, mais il découvre...
Oui, mais c'est pas les Beatles qui chantent.
Les Beatles n'ont pas... Non, mais si, prenez la parole, allez-y, hein, moi, tranquille, hein, je vais inventer un monde où Jérôme Garcin avant n'existe pas, par exemple. Bon, donc voilà, il découvre que les Beatles ne disent rien à personne. Il y a un truc assez rigolo, il cherche Oasis sur Internet, qui est le groupe héritier des Beatles, et évidemment, il n'existe pas, puisque les pères originels n'ont pas existé. Mais une fois que c'est placé, une fois qu'il a chanté, une fois qu'on lui a dit peut-être de changer une ou deux paroles mythiques, des chansons qu'on connaît par cœur, une fois qu'il a enregistré, une fois qu'on lui a dit que c'était pas mal, mais qu'on pouvait faire mieux, une fois qu'il a rencontré le succès, il nous reste pas grand-chose, sauf Himesh Patel, qui est quand même...
Il est incroyable.
L'acteur, non mais les Anglais les élèvent en batterie. C'est pas possible. Ils n'ont que des acteurs et des actrices extraordinaires, capables à la fois de bien jouer, de chanter comme des dieux. Le mec, il a un charisme, il a une voix, il la place absolument formidable. Le tout en direct quand même. Il est pas joli, mais il a un charme fou. Il a des petites joues comme ça que quelqu'un d'ailleurs à un moment lui pince. C'est, mais rien que pour lui, on reste.
Petite parenthèse personnelle, au mois de juin. Combien de spectacles de Mylène Farmer tu as suivi?
Oh, c'est pitoyable.
Si elle pouvait ne pas exister.
Combien?
Il n'a aucun rapport avec le film. J'aurais pensé que pendant Teen Spirit, tu me parles de Mylène Farmer.
À combien de spectacles de Mylène Farmer as-tu
Il y en avait 9 très officiellement et j'en ai vu 3. Voilà. Mais je le verrai une 4e fois puisque le film du concert sera diffusé en une seule soirée, une seule séance, le 7 novembre à 20h. Et j'ai déjà mes billets
au
cas où tu voudrais me poser la question. Maintenant, pour Yesterday, j'ai fini, je peux avoir la parole. Merci beaucoup, Jérôme Garcin.
Trop aimable.
Il existe encore.
Daniel.
Trop aimable. Bon, pour une vieille fan des Beatles, on se laisse embarquer. Je veux dire, le début est assez brillant où effectivement, il peut pas croire que personne n'a jamais connu les Beatles. Alors il va sur Internet et il dit Beatles et il voit insecte. Bah oui, évidemment. Et donc cette étrangeté, cette façon de temporalité totalement faussée, on s'embarque effectivement et on est complètement saisi par le talent de monsieur Himesh Patel. Bon, alors c'est vrai que il a un peu de mal après à faire monter en puissance le succès qui va de mieux en mieux, de plus en plus, de, dans
ça,
des
ça, c'est
trous.
Le syndrome Slumdog, hein.
Voilà. Et de trop en trop.
Et de, voilà, voilà. Et il élimine un petit peu trop facilement la culpabilité, quand même, de ce brigand qui n'est pas un Beatles, qui, et qui ne sait pas pourquoi tout ça lui arrive. Donc, c'est plus fort que ça. L'histoire est plus forte que le film. Et simplement, pourquoi bouder son plaisir et pourquoi ne pas être heureux d'entendre un interprète absolument hallucinant chanter des chansons qui sont là, dans notre cœur, dans notre
tête.
Et
qui sont un patrimoine universel. Ouais. Eric ?
Ben, Xavier a raison, parce que le scénario qui est entièrement pompé sur Jean-Philippe, qui était mille fois mieux, ça ne tient pas du tout la route.
Mais c'est nous, on fait des échelles quand même.
Pas mille fois, fois mieux.
Ah bah si, enfin, ouais, beaucoup mieux si vous voulez.
Le Johnny Hallyday
ouais,
avec...
Bah, tandis que là, au bout d'une demi-heure, il était en train de patauger dans son histoire. Non seulement il ne sait pas quoi en faire, mais il y a plein de petites erreurs, d'invraisemblances, de trucs qui foutent tout en l'air. Bah si. Et puis moi, contrairement à vous, moi je trouve que l'acteur est aussi excitant qu'une tranche de mou de veau sur un évier. J'ai plus
la comparaison est délicieuse.
Non, ça vire tout de suite à la rom-com tout à fait banale avec la gentille manageuse qui l'a trahi, la méchante productrice. Et tout ça est très, très lassant. Et ça finit même par être...
Je pense qu'on va parler
et entendre
cette émission de Teen Spirit. Alors, sois un peu plus indulgent.
Oui. Oh, bah, je préfère Teen Spirit.
C'est bon. C'est vrai?
Oui, pratiquement. Non, parce que là...
C'est un petit peu de goût.
En plus, ce qui cloche aussi, c'est que un monde dans lequel les Beatles n'ont pas existé, à l'écran, ça n'a rien changé. Un double blanc, ça doit être une commande dans un bistrot, c'est tout. Là, il n'y a rien. Et moi, ce qui me chagrinerait vraiment, c'est que les Rolling Stones n'aient pas existé, comme je les préfère. Donc le film.
C'est un message personnel, c'est
ouais.
Ça,
je sens
bien.
Dans le film.
Ouais. Pierrot.
Moi, je trouve ça très plaisant. C'est vrai. On marche.
Trop long.
Ah, non. Alors, ce que j'allais venir. Non, mais l'idée est très plaisante, et je trouve que le scénario, quand même. Je suis d'accord parce que ça pourrait être beaucoup plus méchant. Mais c'est surtout ce qui ne va pas, c'est les rapports sentimentaux, quoi. C'est-à-dire que la partie sentimentale, l'histoire d'amour est lente, longue, pudique, morale. Ils peuvent rien se passer entre eux pour ne choquer personne. C'est tout juste.
C'est un 78 tours passés entre.
Oui, non. Mais enfin, c'est-à-dire que ils sont là, ils se regardent. Non, on peut pas s'embrasser si on n'est pas marié. Enfin, les années 30 dans le cinéma hollywoodien étaient beaucoup plus amorales que ça. Alors, c'est un film d'une pudeur extrême. Et ce qui manque, moi je l'ai vu avec Daniel, on a échangé un mot, enfin juste au moment de la projection.
C'est mignon, vous êtes allés ensemble au cinéma.
On est allés ensemble au cinéma.
Ça nous arrive,
non mais
je
pris un esquimau.
Je trouve que ce qu'il aurait fallu, c'est Billy Wilder. Voilà, Billy Wilder avec son ironie, sa causticité, aurait pris ce sujet et il l'aurait poussé justement. Les Rolling Stones, la méchanceté, le truc. Pourquoi la culpabilité? Qu'est-ce que c'est qu'être faussaire? Il avait fait un film génial qui s'appelait La Grande Combine. Donc ce qui manque, c'est la méchanceté de Billy Wilder. Mais si on veut passer en ce début d'été une heure et demie agréable, bon.
Yesterday, signé Danny Boyle. 3 ans après Gaz de France, Benoît Forgeard signe Yves avec William Lebgill, Doria Tillier et le toujours impayable Philippe Catherine, issu dans le rôle à peu près improbable du manager. Yves, c'est donc le sobriquet d'un réfrigérateur ultra intelligent, ultra sophistiqué, qui aide à mieux vivre, un frigo robot, bref, un fribo. Et Jérém, donc c'est William Lebgill, qui est un rappeur amateur, s'installe chez Mémé pour composer son premier album, et une enquêtrice de la start-up Digital Cool le persuade de prendre Yves à l'essai, de le tester. Bonne pioche, le frigo se met à lui écrire des chansons qui sont pas des chansons des Beatles, hein, ni de Mylène Farmer, malheureusement. Et lui ouvre la voie du succès avec ce Must, évidemment, qui est un concours de l'Eurovision des appareils électroménagers, qui m'a paru plus convaincant que le vrai, d'ailleurs. Donc, une comédie 2.0, une heure presque 50, assez givrée, non, Pierre?
Ah, ça devrait. Ça pourrait, mais ça l'est pas. C'est consternant. Non, mais je veux dire que, à ce degré-là, manquer à ce point de fantaisie, de rythme, moi, j'ai passé mon temps à me poser des questions.
Tu n'as pas souri du tout.
Ah, mais alors,
Pas du tout. Je faisais la gueule plus à, non mais plus à ce qu'on dit, parce que je disais, mais est-ce que, où est-ce qu'il va
c'était
aller?
Avec Daniel
dans l'annonce.
Non, j'étais pas à côté.
Non, non, elle n'était pas à côté de moi. Je regrette parce qu'elle m'aurait peut-être.
Mais je t'aurais pincé.
Bah voilà, tu m'aurais pincé. Non, non, mais c'est affreux, c'est affolant. Le mec est absolument pas doué pour faire de la comédie. C'est effarant. Et alors, la scène de l'Eurovision. Non, parce que je voudrais comprendre.
Il y a des moments. Non, mais
il y a des moments.
Bien,
il y a des moments où on se pose pas la question quand la fantaisie vous emporte. Est-ce que vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait un léopard dans l'appartement de Catherine Hepburn dans l'impossible Monsieur Bébé? Non, parce que Howard Hawks nous force à l'accepter.
Et ah, mais ça... Tu passes ton temps à vouloir du Billy Wilder. De...
Ben, je suis désolé, mais Billy Wilder
en 2019
et du... sont de meilleurs réalisateurs que
ah,
ce
oui,
monsieur.
Mais... Non, mais, le film est sorti il y a 15 jours, une presse dithyrambique et unanime.
Eh ben oui, mais non, sauf mais... moi. Y a une scène cocasse. C'est même pas la scène de l'Eurovision, parce que la scène de l'Eurovision, je trouve que le frigo qui gagne l'Eurovision représente.
Ah, bah, faut pas le dire, faut pas le dire, on sait pas.
Ah, bah, si, c'est sur l'affiche. Il gagne l'Eurovision.
Mais tu fais pas la
scène. Désolé. Oui. Ah oui, non, mais attends, c'est sur l'affiche. Alors, c'est un frigo, c'est sur
c'est
l'affiche.
C'est toi qui l'as conçu.
Et il gagne l'Eurovision, donc j'ai rien trahi. Mais je trouve que simplement que la question, la, je sais pas si c'est la, celle qui représente l'Italie, je sais pas si c'est un sèche-cheveux ou quoi, c'est une bien meilleure chanson, comme quoi Myriam peut dormir tranquille, même quand les frigos commenceront à composer des chansons, la France ne remportera pas l'Eurovision pendant longtemps. Alors, la scène du procès, voilà, la scène du procès, il y a une sorte de burlesque un peu léger, mais tout le reste est atterrant.
Eric.
Tu es un peu dur, hein, quand même, parce que si tu n'aimes pas ça, tu seras remboursé par Darty, de toute façon.
Ah, voilà, pas de nom à l'antenne.
Ah, pardon. Alors, il faut donner deux autres marques.
Ah,
allez, dépêche-toi, Conforama, Bricorama, bah, allez, hop, voilà.
Bravo. J'ai toujours su que tu étais représentant de commerce.
Ah, bah, j'occupe mes samedis après-midi, moi, messieurs.
Non, pas du tout, t'es chez Mylène Farmer, le samedi après-midi.
Ce qui est amusant, c'est que voir qu'à une semaine d'intervalle sort ce film et Le Dain.
Le Dain,
qui
oui.
Qui est un peu la même histoire.
Un
type qui devient ami facile.
Sauf que Le Dain est beaucoup plus.
Plus court.
Et puis surtout plus noir. Plus noir.
Oui, non, parce que là, le défaut du film, la première heure, ça va, on s'amuse, mais ça en dure presque deux. Les gens devraient apprendre à couper, je sais pas. Là, ce qui est assez rigolo,
47,
c'est de voir ce rappeur puceau qui est maladroit, qui est nul, qui vit dans la maison de sa grand-mère à Saint-Nom-la-Bretèche et qui se prend pour une vedette. Et c'est un peu comme si Mocky avait engagé Hal, l'ordinateur de 2001. Mais au bout d'un moment, il sait plus quoi en faire de son frigo, là, le réalisateur, et le héros non plus. Mais restez la première heure, puis ensuite, allez voir Le Dain, peut-être. Ouais.
Daniel.
Oui, c'est une solution. Non, l'idée est quand même formidable. Elle n'est pas traitée.
Oui.
Est-ce que on
Il y a
sera...
la musique de Burgala qui fait passer.
Oui, alors c'est tout. Oui. Voilà,
mais
de Burgala.
Est-ce que on sera tous bientôt tellement hyper connectés que effectivement nos appareils ménagers nous parleront et que
imagine un masque et la plume avec que de l'électroménager. Ça serait pas mal.
Non,
hein.
Je ne veux pas l'imaginer.
Je veux faire l'aspirateur.
Ah, oui.
Oh ben.
Ce sera Télérama et Conforama. .fr.
Mais non.
C'est l'appareil ménager préféré de ma mère. C'est
attends,
pour ça que j'ai cité l'aspirateur.
Je peux faire l'aspirateur, franchement.
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 Non, c'est la fille avec son aspirateur, c'est pour ça.
Je peux faire la fourchette de Toy Story.
Oui.
Bon.
C'est pas un électroménager, je suis désolé.
Oui, mais c'est un outil.
C'est comme la ventouse.
C'est un couvert, ce sera un autre film.
Donc, effectivement, il y a un sujet, et il y a un personnage. Effectivement, faire un personnage vivant, parlant, commandant, ou faisant les repas, etc., d'un réfrigérateur, ça n'est pas une mauvaise idée, franchement. Donc, on est un petit peu saisi que ça n'aille pas plus loin, plus profond, plus cruel aussi. Voilà, on établit le truc, on met le truc en place, et ce meuble très encombrant, ben voilà, il est blanc, il est froid, et voilà, le concours de l'Eurovision, c'est un petit gag, mais qui dure très peu de temps. Et effectivement, il faut quand même dire que ce frigo, en dehors de faire les repas et de se mêler des affaires sentimentales de son maître, est quand même celui qui fait le tube qui va de nouveau le lancer comme rappeur. Et je peux vous en donner le titre au masque et la plume. Carrément, rien n'a branlé. On peut considérer que, effectivement, on peut dire ça du film, mais je serai un peu plus indulgente.
Xavier.
On entend beaucoup, hein. Je crois qu'on en est à 50 ou 55, rien à branler en moins de 10 minutes. Il y a un moment où on a envie. Grandis, mon petit, grandis. Tu verras, ça fait du bien. Déjà, pour l'originalité de l'idée, me permettrais-je de vous rappeler I Love You, de Marco Ferreri.
Oui, avec un porte-clé.
Lambert, avec un porte-clé. Donc, déjà, sur le fétichisme de l'objet, on avait déjà vu ça et en mille fois mieux. C'est consternant, je suis totalement d'accord avec Pierre, je trouve ça débile du début jusqu'à la fin. Même l'idée, elle n'est absolument pas traitée, c'est écrit
non, mais
par
pas
un
traitée,
gamin
mais l'idée est pas
régressif, vrai. Potage, dès qu'il m'est branlé, on a l'impression qu'il est secoué de rire derrière sa table de travail. Il termine sur une espèce de scène qu'il croit ou qu'il espère ou qu'il imagine subversive, qui n'a aucun intérêt. Effectivement, la panne absolue d'inspiration, c'est le concours de l'Eurovision qui aurait pu donner quelque chose de
formidable.
Mais c'est drôle, le concours de l'Eurovision.
Non. Un réfrigérateur qui succède à un fer à repasser, qui succède à un machin, on s'en fout, il fallait inventer un truc, il fallait faire...
J'essaie de défendre ce film,
Je ne sais pas, tu fais partie de cette presse qui trouve des qualités à ce petit objet, mais...
Cela dit, comment tu expliques pour le coup cette unanimité sur des pages et des pages dans la presse?
Certains de nos amis veulent se croire branchés en aimant Yves. C'est-à-dire, ils veulent
pour un frigo, il vaut mieux.
Oui, déjà. Mais je pense qu'il y a un côté hype. C'est tellement bien d'aimer Yves, c'est tellement drôle, c'est tellement branché ou débranché. Non, moi je suis désolé, mais si c'est ça le summum de la comédie française subversive, bah, au secours quoi.
C'était All About Eve.
Eve,
ouais.
Forgeard. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. On termine la séquence musicale avec Teen Spirit, le film qu'a aimé.
Non.
Donc, Rhythme Off de Max Minghella, le fils, oui, d'Anthony Minghella, le réalisateur du Passion anglais, qui s'est offert un casting plutôt classe, hein, Ellie Fanning et Rebecca Hall. L'histoire, elle est beaucoup moins classe. Violette Valensky, c'est donc Ellie Fanning, jeune fille passionnée par le chant, elle rêve de quitter sa petite ville d'Europe de l'Est pour devenir une star et elle est flanquée d'un pseudo-mentor. Elle s'inscrit aux auditions de Teen Spirit, qui est un mélange de Télécrochet et de The Voice. Et donc voilà, c'est un film d'apprentissage très très mollasson, comme d'ailleurs la prétendue dénonciation de ces concours très formatés de voix. Quant à la jurée, parce qu'elle était quand même jurée au dernier festival de Cannes, Mademoiselle Fanning, sa prestation m'a semblé quand même très très limitée. Xavier.
Ah bah c'est le point que l'on puisse dire, c'est même un contresens total, parce que tu l'as rappelé, donc c'est The Voice, ce sont tous les concours vocaux qui marchent très très bien, donc déjà il y a un petit opportunisme quand même dans l'idée
Oui, puis c'est dans le monde entier que ça marche.
Dans le monde entier, et en même temps, tu as raison, il n'attaque jamais frontalement le sujet sur les tricheries, sur les manipulations, sur les éventuels achats d'espace et tout ça, sur la manière dont le jeu est truqué. Donc elle est là, elle traverse, tu l'as rappelé très bien, elle voudrait se sortir de sa petite mouise sociale, dépressive et tout ça, sauf qu'elle y va en traînant des pieds, enfin elle y va, mais avec une espèce de... Ça l'emmerde d'aller chanter, ça l'emmerde de pousser la voix, d'ailleurs elle le fait pas. Elle passe son temps à être dépressive, à tirer la gueule, on a envie de lui dire mais souris un tout petit peu, c'est de la télé, je ne comprends d'ailleurs.
Oui, mais elle a été au jury de Cannes, hein, faut comprendre.
Oui, non, mais le personnage, il y a un moment, il faut qu'il y ait un peu de crédibilité, voire un peu d'empathie. C'est-à-dire que quand tu participes à cela, que c'est ton rêve de jeune fille et que tu vas peut-être grâce à cela se sortir de la mouille sociale, t'y vas, enfin, t'en vois quelque chose. Bon, tu me diras, Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, on peut réussir avec un filet de poids, c'est pas...
Contrairement à Mylène.
Oui. Contrairement à...
Mais Mylène, pas quand on est une...
Il y a un organe.
Justement, je t'emmerde avec l'organe. Ça s'arrêtera dans les... J'allais dire dans les annales, mais non. Mais donc, je comprends pas ce personnage. Donc, il y a un moment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on s'en désintéresse complètement.
Même un peu avant.
La seule chose, c'est que pour une fois, pour ce genre de fiction, la pop s'écoute et elle est plutôt crédible dans le registre de ce genre de programme. Mais pour le reste, mon Dieu, que c'est triste.
T'as aimé ça, Eric, c'est vrai?
Je vais pas trouver ça désagréable, mais je sais pas si les chansons sont des vraies chansons reprises ou si c'est...
Non, c'est des compositions originales.
Ah oui, bah, elles sont pas si mal pour des chansons pop. Non, ce qui est amusant, il y a aucune surprise, mais ça se passe à l'île de Wight, où avait eu lieu le premier festival pop, enfin, un des premiers de l'histoire de la musique.
Je pense que ça change au film, hein.
Si, parce que c'est un clin d'œil. Et moi, j'aime beaucoup son espèce de mentor. Alcoolique, polonais, ancien chanteur d'opéra, complètement dans la mouise. Et toutes les cases sont remplies, hein. C'est des clichés, mais c'est plutôt revendiqué comme ça. C'est un premier film. Et Elle Fanning, je vous trouve quand même un peu sévère avec elle, parce qu'elle n'est pas si mal. Elle est beaucoup mieux qu'à ses débuts. Il lui arrive un peu quelque chose.
Ah, ça, c'est inquiétant.
Ah oui. Non, mais elle progresse.
Elle progresse.
Et non, pouf. faut aller voir ça un soir où on n'est pas très en forme et puis ça... Mais moi, je préfère ça. Je trouve ça moins laborieux et moins prétentieux que Yesterday.
Daniela ?
Non, mais c'est vraiment Elle est famine qui est le problème.
Non.
Je veux dire, mais si, je veux dire, bon, c'est une toute petite chose.
C'est un personnage de Beckett.
Mais non, mais oh oui, bien sûr. Non, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'effectivement, fille d'émigrés polonais, sortir de la mouise, tout ça, on a bien compris. Voilà, le dispositif est en place. Et quand même, il y a des moments où elle a une espérance, il y a des moments où ça marche, et puis après, elle est de nouveau inquiète. C'est pas jouer, on joue en haut, on joue en bas, on exprime quelque chose. Elle est une espèce de pâleur diaphane. Je l'y ai regardé, incontestablement, je l'y ai regardé. Où il ne se passe rien. Et donc, c'est quand même l'héroïne de ce petit film, et quelqu'un qui fait la gueule tout le temps.
Qui a une vertu, c'est 1h30, hein.
Oui, oui, d'accord, mais ça paraît long. Et donc, qui fait la gueule tout le temps, même quand ça va pas mal. Alors, franchement, boum.
Pierrot.
Bah, vous avez tout dit, alors je vais pas rajouter grand chose, d'autant que...
Je vais raconter la fin.
Ben non, justement, je vais pas raconter la fin, je pourrais pas, je voudrais bien, mais je pourrais pas parce que...
Elle fait comme le frigo, hein.
C'est vrai? Ah ouais. Non, non, c'est simplement parce que le cinéma a eu une panne, tout s'est coincé.
Ah, elles ont bon dos, les pannes, elles ont bon dos.
J'ai pas vu Murat, était dans la salle,
je suis désolé, mais voilà.
Tu l'as vu dans l'avion?
Hier, ça m'a paru très, très sage, un peu sinistre, et je suis d'accord avec vous. Elle fait la gueule tout le temps.
Ben voilà.
Ah ouais, elle fait la gueule tout le temps.
Tout le temps.
Enfin, tout le temps que j'étais là, après, je sais pas. Mais tant que
je pense qu'elle savait que tu étais là.
Sans doute. Je pense que quand je suis parti, hein, elle devait être
voilà. Non, elle va bientôt pouvoir jouer chez les Dardennes, alors.
Ouf. Bon, non.
Remplacer le frigo dans Yves.
Oui, ça pourrait, ça, oui.
Chance ce soir.
Oui, mais elle fera tout.
Enfin, voilà. Non, ce que j'ai vu, ça n'a aucun intérêt, pardon, pour le fils d'un metteur en scène que j'aime bien.
Oui, qui d'ailleurs n'est pas non plus...
Anthony Minghella, j'aime bien le
patient. C'est pas Fellini, hein.
Oh non.
Le patient anglais, c'était très bien.
Teen Spirit, c'est donc Max Minghella. Avant de partir pour le Québec avec deux films, un détour très glacial par The Mountain, une odyssée américaine de Rick Alverson avec Jeff Goldblum. Alors, il s'est fait un look, à un moment donné, il a ses lunettes et une pipe, on dirait Jean-Paul Sartre. On a presque l'impression qu'il louche. Tal Sheridan et même, alors là, Denis Lavant. Je savais qu'il s'arrangeait pas, mais alors là, et là, il boit trop. Et puis alors, il a un monologue halluciné. Moi, j'ai même eu peur pour le réalisateur, hein, et les techniciens.
Moi, j'ai eu peur pour le décor.
Oui. Ça se passe aux États-Unis dans les années 50. Jeff Goldblum, qui est donc le docteur Wallace Fiennes, grand adepte des électrochocs et de la lobotomie, qui engage un garçon assez simplet qui travaille à la patinoire, Andy, Ty Sheridan, pour, dit-il, là je cite le docteur, porter ses affaires et prendre des photos. En fait, c'est pour l'aider à documenter sa méthode de lobotomie. Les deux vont d'asile en asile jusqu'à une petite ville de montagne, la montagne du titre. Alors berceau, là, Eric doit être content, du mouvement New Age, où il rencontre Jack, donc ce fameux guérisseur français incarné par Denis Lavant, qui veut faire lobotomiser sa fille, dont évidemment Andy tombe amoureux. Alverson dit qu'il s'est inspiré de la vie du neurologue américain, que je ne connaissais pas, Walter Freeman, paraît-il très célèbre pour ses lobotomies, elle-même très controversée. La forme, ce qui est presque un pléonasme pour un film de pur formaliste, cette image carrée, cette musique inquiétante et cette atmosphère glaciale, en fait un film que, décidément, qu'on ne peut ni pour son propos, ni pour sa forme conseiller, Pierrot, non?
Ah ben moi, le trois premiers quarts d'heure, je dois dire...
C'est vrai, tu as marché?
Ouais, j'ai marché. Je trouve que c'est très poseur. Dès les premières minutes, c'est assez poseur et prétentieux. Mais je trouve qu'il réussit quand même à distiller un climat d'inquiétude. Jeff Goldblum, je le trouve vraiment bien et inquiétant, pas tellement lorsqu'il se livre à son métier, mais lorsque, brusquement, comme ça, justement, par exemple, il y a une scène où il sort de la voiture et il disparaît dans la forêt, comme ça. Et on se demande vraiment pourquoi, comment. Il rappelle un peu dans son obstination les personnages de Flannery O'Connor. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culpabilité comme ça de le malin. Enfin, John Huston avait fait le malin à partir d'un roman de Flannery O'Connor. Il y a un peu ça dans le personnage de Jeff Goldblum. Malheureusement.
Pierrot, ça dure 1h50.
Oui, oui, oui. Non, mais ça, je te dis 3/4 d'heure. Après.
C'est un supplice,
après,
ce film.
Après, il y a le personnage surtout que tu as évoqué qui est Denis Lavant. Là, à partir de là, le film sombre dans le n'importe quoi. Tu as parlé de ce monologue. Le réalisateur, je crois, évoque Thomas Bernhard.
Oui. Et alors. C'est Thomas Bernhard dans le dossier de presse, oui.
Voilà. Merci, c'est Thomas Bernhard. C'est du très mauvais Thomas Bernhard, comme jamais j'ai entendu. C'est catastrophique. Et c'est pas de la faute de Denis Lavant, c'est ce qu'on lui demande de faire.
Et donc, là, tu sauves 3/4 d'heure du film.
Ah oui, je trouve qu'il y a une vraie ambiance.
Xavier?
Je pourrais être d'accord avec Pierre pendant la première demi-heure. Il y a quelque chose d'intrigant, on a envie d'y croire. Il y a une proposition esthétique, il y a un mystère, il y a un hors-champ. Bon, bref, on fait notre boulot. On y va, plutôt. Après, je dirais que la seule qualité, entre guillemets, du film, c'est la climatisation de la salle dans laquelle il sera projeté, quoi, je veux dire. Parce que c'est la quintessence, la caricature du film esthétique chiant.
Oui, un tel
ouf. Tout passe par la conception du formel, du cadre, regardez comme c'est.
Chaque plan est léché.
Et au cas où on ne l'aurait pas remarqué, les dialogues sont égrenés une fois toutes les 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a le temps de relire un exemplaire du Temps perdu, par exemple, entre deux éléments de dialogue.
Largement. Un peu.
Même sur le dialogue le plus banal. Ça va. 10 minutes plus tard. Pas bien. Ouais, d'accord.
Okay. Bah, Denis Lavant.
Je comprends parce que tout le monde tirait la gueule.
Le monologue de Denis Lavant est un peu plus long.
Le problème, outre le fait que c'est un film d'un ennui, mais abyssal, c'est que ça ne dénonce jamais les travaux de ce médecin qui était lobotomisé à l'époque. Les filles un peu trop chaudes, les homosexuels, les rouges.
Bah, c'est dit.
C'est dit discrètement si tu lis le dossier de presse quand même. Hein. C'est quand même un film qui passe son temps à débarquer le spectateur. Alors, nous, bons petits soldats, pendant le début, on se raccroche, on y retourne, vaillamment, petit sac à dos. Mais au bout d'un moment, on a envie de dire au metteur en scène, mais vas-y, finis-toi toi-même, bonhomme, puisque visiblement...
Non, mais c'est élégant, vraiment... élégant.
Mais non, mais c'est un exercice de nanisme cinématographique absolu. Le mec élégant. N'a aucune idée, aucune conscience et aucune envie quelconque de plaire à un spectateur. Il se plaît à lui-même, il fait sa petite affaire. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi?
Daniel?
Oui, mais alors, en plus... C'est un grand professeur, c'est un grand neurologue, c'est un grand chirurgien. Les opérations qu'on voit vraiment assez souvent, tout le monde est en complet veston, sans gants, sans blouse. Enfin, je veux dire, c'est absurde. On est en train d'expliquer les méthodes pour le moins discutables d'un grand neurologue chirurgien et on nous montre des clowns qui font des opérations abominables. Enfin, c'est entièrement hors du sujet qu'on est en train d'essayer de nous expliquer. Enfin, j'ai pas compris.
Même de dénoncer.
De dénoncer. Ouais, voilà. Bon. Alors, effectivement, il y en a une où il rate vraiment le truc et là, ça va pas trop bien. Oui, bon, d'accord. Oui, mais puis après, il continue. Et alors, on voit passer Udo Kier. Oh, Udo Kier. Mon Dieu, il y avait longtemps que t'avais pas vu. Oh, mon Dieu. Oh, Udo Kier. Bah, t'as pas rajeuni. Bah, moi non plus. Bon, d'accord. Ok. Et puis arrive Denis Lavant. Et là, effectivement, c'est un sketch absolument embarrassant.
Mais c'est embarrassant.
Enfin, c'est embarrassant. On a de la peine pour lui. Enfin, c'est. Alors bon, je sais pas. Léos Carax, reprends-le, fais-lui un film. Enfin, je sais pas. C'est pas possible.
Je sais pas si c'est exactement ce qu'il faut qu'on lui souhaite. Mais enfin,
mais
en
non,
tout
mais
cas, c'est...
bon. Mais là, vraiment, c'est. En plus, c'est tout à fait en contrepoint de toute l'atmosphère du film. Enfin, je sais pas. C'est un film totalement bancal, avec effectivement un point de vue esthétique qui n'est pas inintéressant, mais qui est quand même très désagréable.
Eric.
C'est absolument lugubre, mais c'est presque un compliment, parce que c'est voulu, je pense.
Ah oui.
Il y a vraiment quelque chose.
Tu penses ?
Oui, oui. Non, mais ça fait penser à ce truc suédois qui s'appelait Les chansons du deuxième étage, avec le côté absurde, très, très chiadé, millimétré, l'image où on ne comprend pas tout. Et il y a. Faut aimer les films comme ça, hein, parce que le jeune héros ressemble à une pomme de terre, il est complètement atone. Son père, Udo Kier, ressemble maintenant à un crapaud qui aurait été trempé dans l'eau de Javel. Heureusement, il meurt assez vite. Il y a des belles séquences dans la patinoire. Il y a quelque chose d'assez poétique et de très malaisant.
C'est pour employer un mot. C'est des plans de patinoire. Hein,
oui, non, mais...
Oui, comme c'est le début, effectivement.
Il y a vraiment quelque chose.
Pas bien,
c'est choc corridor sous bromure, parce que c'est quand même très, très calme. Il y a une vraie folie dirigée. Jeff Goldblum est vraiment... prodigieux là-dedans, quand on le voit assis en caleçon, en train de fumer sur son lit, on se demande pourquoi. Il y a un tas de scènes comme ça, on ne sait pas trop où ça va. Denis Lavant, lui, il n'a pas compris où il était, je crois, dans Holly Motor, il est torse nu, il boit du whisky en racontant n'importe quoi. Heureusement, il y a sa fille, que lui veut faire lobotomiser, Et elle est très bien, là, Anna Gross, là. On comprend que le héros en tombe amoureux.
C'est ce que je n'ai pas pense compris. Également Andy. Hein.
Je n'ai pas compris la fin, mais je trouve que le film n'est pas inintéressant. Il ne faut pas se taper ça tous les jours. Non. Mais le type sait ce qu'il
c'est
veut.
Ce n'est si... pas le film qu'on conseille l'été en priorité, tu vois.
Non, mais si le feu peut être glacé, alors c'est un film qui brûle par moments.
The Mountain de Rick Alverson. Allez, on va rire un peu avec La femme de mon frère. Quel prix coup de cœur du jury à un certain regard. C'était à Cannes et c'est le premier film de l'actrice Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Yvon, Evelyne Brochu et même Neil Schneider. On est à Montréal, Sophia. C'est donc Anne-Elisabeth Bossé, trentenaire, docteur en philo, chômeuse, célibataire. En la voyant, moi, je pensais toujours à ce que dit Thierry Lhermitte d'Anémone dans Le Père Noël. Elle n'a pas un physique facile. Voilà, elle n'a pas un physique facile. Anne-Elisabeth Bossé, elle a déjà subi 2 avortements et elle squatte chez son frère René Karim. C'est donc Patrick Yvon, qui est un beau mec avec qui elle a eu une relation fusionnelle. D'où la colère de Sophia lorsqu'elle découvre que sa propre gynéco, qui est jouée par Evelyne Brochu, est devenue la nouvelle conquête de Karim. Monia Chokri se situe très clairement et ouvertement, même dans le sillage de Xavier Dolan, dont elle a été la comédienne dans Amours imaginaires, c'est-à-dire mise en scène speedée, montage surmené, couleurs et dialogue, alors là, furibond, sans oublier le fort accent québécois. Mais je trouve qu'elle a plus d'humour grâce justement à cette Anne-Elisabeth Bossé, épatante, éreintante dans le rôle de cette Bridget Jones-Saint-Elo. Les parents, d'ailleurs, sont joués par Micheline Bernard et l'Israélien Sasson Gabaye.
Ils sont épatants, les
filles. Quant à la BO, ça va de Bach à Petula Clark. Il n'y a pas Mylène Farmer. Et ça dure 1h57, presque 2h. Daniel.
Oui, c'est bien installé. Bon, c'est vrai que moi, je suis fille unique. Alors, j'ai eu un tout petit peu de mal à comprendre cette fusion totale.
Avec un frère.
Avec un frère. Mais on y croit, d'une certaine façon.
Oui, parce qu'elle demande des comptes. Enfin, presque. Que voilà. Ça soit son homme,
et quoi. Ça la rend absolument odieuse, insupportable. Et effectivement, alors voilà, on a parlé de films où effectivement le scénario, l'idée de départ était bonne, mais ça n'allait nulle part. Je trouve que ça, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que bon, le dispositif est installé et qu'il se passe des choses et que les acteurs y vont et que voilà, on y croit, on la trouve odieuse, mais elle souffre et lui, il sait pas trop bien quoi faire parce que il l'adore mais il est amoureux. Donc effectivement,
c'est vrai que la gynéco est pas mal, hein.
Elle est ravissante, Madame Evelyne Brochu, très jolie personne. Donc c'est pas un film aimable. Et finalement, on comprend qu'il y a là quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire ce que la fraternité peut déclencher.
Mais tu n'as pas souri, par exemple, pendant.
Si, il y a des trucs assez marrants.
Pas beaucoup. Xavier non plus, tiens, apparemment.
Non, il y a des trucs assez marrants.
Je suis seul à avoir souri, alors.
Non, c'est vrai qu'il y a elle est tellement remontée, que, effectivement, il y a des trucs marrants. Et alors, la fin est quand même très énigmatique.
Non, la fin, elle est forcément énigmatique puisque c'est la fin. Xavier, t'as pas souri du tout?
Alors moi, le problème, c'est que j'ai vu le film à Cannes et que la veille, je croise le distributeur français, Alexandre Malégui, qui me dit, faut absolument que t'ailles voir La femme de mon frère, l'héroïne, c'est toi en fille. Moi, gentil, naïf,
ça fait envie.
Contrairement à ce que vous pouvez penser, hein, j'y vais en me disant, voilà. Et je me retrouve face à une fille qui a un gros cul, hystérique, qui hurle tout le temps, sa mère lui dit, arrête de crier un moment, elle n'obéira jamais, pendant 1h57, elle criera tout le temps, et hyper castratrice. Ce qui est vraiment pas mon truc, hein, ça, au contraire. Et donc, je me dis, bon, encore un distributeur qui me déteste. Ok, c'est pas grave, la liste est longue, il y en a d'autres. Donc, il faut quand même 3/4 d'heure pour se dire, c'est comme ça qu'on me voit. Oh putain, il va falloir que je fasse un gros travail sur moi-même. Donc, une fois que j'atterris de cette très mauvaise surprise, donc il m'aurait comparé à Patrick Yvon, le frère qui est hyper sexy.
Oui, bon. Là,
beau mec, même, beau mec.
Ah ben, beau mec. Alors ça, ce soir, je le faisais une critique dithyrambique. Là, je suis rancunier, je sais, c'est très mal. Mais j'ai un petit peu de mal. Après, je me dis, mais c'est drôle, je reconnais ces codes de couleur bleu,
oui,
rose.
Ça, c'est très drôle.
Alors, c'est un gars, une fille, version intello. Hein, faut dire les choses, faut vous prévenir. Version un frère et une sœur. Mais on a le même principe, c'est-à-dire qu'on a un frère et une sœur à la soirée du Nouvel An. On a un frère et une sœur au dîner parental. On a un frère et une sœur au planning familial, on a un frère et une sœur à la patinoire. Donc, c'est des petits sketchs comme ça, qui sont tout le temps sur le même mode, c'est-à-dire cassons quelque chose, sinon...
Ah, il n'avait pas tort.
Alors, effectivement, elle a beaucoup vu Godard comme Delanne. Elle a un peu vu Varda. À un moment, elle pique une scène entière du bonheur. Mais hélas, comme tu le disais, elle a vu Delanne. Et ça,
c'est très injuste. Je ne dis pas ça parce que c'est un film inter.
Mais, alors oui, non, mais après, je suis méchant. Il y a des moments qui sont très drôles. Il y a des moments qui sont très incisifs. Elle a le sens du dialogue. Elle a une mise en scène qui n'est pas très modeste. Pourquoi est-ce qu'elle filme tout un repas de sous la table en verre? Ça, on lui avait pas demandé. C'était pas utile. Mais bon. Donc voilà. Alexandre Malégui me voit comme ça. J'espère que vous le démentirez. J'espère que vous m'enverrez des lettres en disant non, monsieur le Harper, vous n'êtes ni hystérique, ni gras du cul, ni machin. Non, vraiment.
Je sais pas. On va
Eric.
C'est absolument lugubre.
Oh.
Mais ça n'est pas voulu.
Le sens du terme cette fois-ci.
Ah non, c'est le genre de film où il y a une centaine de gags dont 99 ne sont pas drôles. J'ai juste ri au moment où le prétendant qu'on veut lui fourrer dans les pattes vient dîner chez elle. Mais sinon, mais tout ça ressemble à des sketchs qui devraient passer après le journal télévisé par petite unité. C'est cette fille est
Ça s'appelle un gars, une fille.
Ah oui, non, c'est les. C'est un premier film, alors on ne devrait pas en dire de mal, mais c'est vraiment un film sinistre. D'ailleurs, à Cannes, personne ne riait. On était consternés. Il faut qu'elle fasse autre chose. Elle était actrice, il paraît.
Elle est actrice, on va en parler dans quelques instants.
Oui, je sais.
Pierre.
Non, elle était dans le film de Sandrine Dumas, il y a 2 mois.
Le côté incestueux, vraiment, c'est pas audacieux. C'est vraiment pas les enfants terribles, c'est les enfants pas terribles, ça.
Pierrot.
Si on est très, 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 très gentil, on dira que c'est un film, comme je dis de temps à autre à ce micro, sympatoche.
Sympatoche.
C'est sympatoche.
Avec des
Non, mais c'est sympatoche.
Oh là 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 là.
Non, mais voilà, c'est sympatoche.
Et ça dure 2 heures.
Non, mais parce que, oui, il y a de l'entrain. Alors, si on est un peu plus difficile, lucide peut-être, on dira que... Elle n'est pas pour l'instant très très douée, cette bonne actrice pour la mise en scène, et que malheureusement ses influences, il faudrait qu'elle sorte de l'univers de Xavier Dolan, parce qu'en plus, Xavier Dolan, lui, a évolué, c'est-à-dire que lui, il a fait quand même deux
films. De voir le nouveau.
Ouais. Depuis, enfin, j'ai pas vu celui de Cannes, mais les deux autres étaient bien, tandis que là, ça rappelle furieusement le Dolan des amours imaginaires dans lequel elle jouait, ce qui n'est pas le meilleur Dolan pour moi. Donc, c'est un peu long.
La femme de mon frère de... Vous êtes trop méchant, de Monia Chokri. Et rapidement, on termine avec la comédienne Monia Chokri, qu'on retrouve, ainsi que le Québec, dans Pauvre Georges de Claire Devers, aux côtés de Grégory Gadebois, qui est un comédien que j'adore, Pascal Arbillot, Stéphane De Groot et... du tout jeune Noah Parker pour son retour au cinéma, en effet, 16 ans après Les Marins perdus. Claire Devers a choisi d'adapter au Québec le roman très glaçant de Paula Fox, où les belles causes et les bons sentiments se font massacrer. Georges, c'est un expat français qui enseigne dans un collège de Montréal, qui rentre chez lui à la campagne, où il vit avec sa femme, Emma, c'est Monia Chokri, que vous le vouliez ou non. Il découvre alors que Zach, c'est le petit Noah Parker, un ado déscolarisé, qui est comme Eric, il va dans la rue, il mate toutes les bourgeoises derrière les fenêtres, et que cet ado est en train de fouiller sa maison, il l'insulte, il le menace, et puis il décide d'être son sauveur, une manière pour ce prof de se racheter, en plaidant les vertus de l'altruisme et de la bienveillance. Sa femme, ses amis l'alertent, le pauvre Georges continue à courir à sa perte, je n'en dirai pas plus, sinon que... l'ex-comédien du français, Grégory Gadebois, a trouvé ici un rôle à sa mesure, Pierrot ?
J'aime beaucoup ça, moi. J'aime vraiment bien. Je trouve que c'est... D'abord, Grégory Gadebois est formidable. Ils sont tous très bien. Et ça rappelle un peu... Claire Devers avait signé un premier film il y a très longtemps qui s'appelait Noir et Blanc,
oui.
Qui était sur les rapports sado-maso physique.
D'après Tennessee Williams. Mmh.
Voilà. Et là, c'est un peu du sado-masochisme aussi, mais moral. Enfin, et c'est un film qui me plaît bien parce qu'il est malaisant.
C'est quand même une charge contre les bobos.
Bien sûr. Mais c'est un film qui est très
pour
malaisant.
Les deux côtés de l'Atlantique.
Personne n'échappe, ni les enseignants, ni les étudiants, ni personne. Il y a une sorte de noirceur, mais une noirceur vigoureuse en même temps. Avec un dialogue que je trouve très écrit, mais moi très intéressant, qui m'a fait un peu penser à Pinter, c'est-à-dire que les choses qui se disent sont importantes, mais c'est au-delà du dialogue et les rapports, dans les silences ou dans les non-dits que se jouent beaucoup de choses. Alors évidemment, on aurait peut-être préféré que ça soit Joseph Losey qui fasse ça parce que ça aurait été plus cruel.
Oui. Moi, j'aurais préféré Billy Wilder
ou.
Hein? Ou
Oaks, éventuellement.
Ou Olivier Barou.
On a le... Alors, on a le droit de comparer à un cinéma ancien.
Je plaisante.
Non. Je trouve que c'est vraiment une bonne surprise.
Éric.
Je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que le roman est meilleur que le film, parce que c'est quand même très faiblard. Hein. C'est un film un peu figé, contraint, qui ne sait pas où il va. Ça sonne un peu faux. Tu dis que c'est très très écrit. Oui, c'est très écrit, mais c'est mal dit. Ça écorche un peu les oreilles. Il y a une scène de dîner qui est complètement ratée. Et il y a encore une sœur, Pascal Arbillot, qui joue une chaudasse, qui saute sur tous les types.
Ça. Je joue pas une chaudasse.
Mais
c'est pas une chaudasse.
Ah bon.
Alors. Je joue une désespérée.
Voilà. Ah bah pardon.
C'est un crossover avec le film de Guillaume Canet.
Ça ouais. Non, là, c'est vraiment un drôle de film. Et même Gadebois a l'air assez gêné par moments.
Mais non, mais c'est son emploi, c'est son rôle. Bon, Daniel.
Oui, ça pourrait s'appeler les meilleures intentions. Ce type veut sauver le monde, veut sauver ce môme qui n'arrête pas de...
Parce qu'il faut dire qu'il a perdu toute illusion dans son métier.
Voilà,
hein.
Voilà, il est enseignant, il y croyait, il n'y croit plus. Et bon, effectivement, moi je l'ai trouvé touchant. À un moment donné, il est... profondément...
Pas toujours compréhensible, parce que qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, il se transforme en saint...
Oui, voilà, mais au fond du fond, c'est pas un type tellement bien, et donc on est un peu baladé dans une incertitude sur ce personnage, et Gadebois, moi, totalement touché, parce que je trouve qu'il est formidable. Et j'ai pensé que quand même, c'était bien que ce soit un film de femmes. Pierre Devers, parce que les femmes sont pas gâtées, hein. Emma, la femme de genre.
Monia Chokri.
Est extrêmement dépressive. Et il y a de quoi.
Elle est plus calme que derrière la caméra.
Sinon, elles sont alcooliques. Sinon, elles sont. Enfin, je veux dire, elles sont pas gâtées.
Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, tu vois.
Oh, bravo, Eric. Mais ce personnage a fini par me toucher.
Xavier.
Moi, je suis d'accord avec Pierre sur l'intention et d'accord avec Daniel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté Pinter, il y a un côté pièce de théâtre, il y a un côté dispositif qui est extrêmement intéressant, littéraire, mais au bon sens du terme. Après, il faudrait que le cinéma, c'est-à-dire la direction d'acteur et la mise en scène, concrétise et cristallise tout ça. Et j'aime beaucoup Claire Devers, mais je trouve qu'elle abdique un tout petit peu sur le formel et que du coup, ça reste effectivement un objet théorique où on a l'impression que les comédiennes ne sont pas dirigées par le même metteur en scène ou en tout cas ne jouent pas dans le même film. Pourquoi l'hystérie de Monia Chokri? Bon, je pense qu'elle a dû l'imposer, effectivement. Il y a un moment où le film reste un peu à l'état d'intention et de théorie.
Pauvre Georges de Claire Devers, je vous demande juste s'il faut ou non aller voir Spider-Man de John Watts avec dans le rôle-titre Tom Holland entouré de Samuel L. Jackson, John Favreau, Jake Gyllenhaal, donc vraiment, il faut ou pas, Xavier ?
Il faut y aller pour Tom Holland, pour le fait que la bande-annonce réserve très peu de choses du récit, donc il y a un vrai effet de surprise dans le film. C'est un film qui
parle... C'est le 23e de l'univers Marvel, hein. 23e.
Oui, bah, on n'est pas fini. Ça parle de l'univers virtuel, ça parle des fake news, ça parle de l'illusion, ça parle de la magie, ça parle de l'imaginaire. Et la troisième raison, c'est une scène de cauchemar dans laquelle est piégé Spider-Man à un moment où la réalité autour de lui se réinvente sans cesse. Et c'est une pure merveille en termes de mise en scène. Il y a de l'humour, il y a le charisme du comédien. Non, c'est un excellent blockbuster estival. Et encore une fois, ne vous fiez pas à la bande-annonce, elle n'est vraiment pas du tout en regard, mais tant mieux, parce qu'il y a un vrai effet de surprise, si rare aujourd'hui, du film que vous pourrez découvrir en allant le voir en salle.
Daniel, même sentiment ?
Ah oui, on a adoré.
Ah, vous étiez ensemble, là, tout aussi.
Oui. Et le jeune Spider-Man...
Il n'est pas jaloux ?
...qui part en voyage scolaire et il a oublié son costume. Ça commence comme ça. C'est extraordinaire parce que on a vraiment le sentiment, après tant de répétitions et des films assez noirs et des tragédies, etc. Là, vous voulez des effets spéciaux, vous allez les avoir. Mais profondément, Spider-Man a retrouvé l'innocence, a retrouvé la fraîcheur, a retrouvé la jeunesse. Et ça, franchement, on achète.
Pierre, même sentiment.
C'est très moyen. Et alors, c'est surtout fait sur un truc.
Tu te rends compte ce que Lozère a pu faire avec Spider-Man?
Mais
tu te rends compte?
Ben oui. Je regrette de plus en plus.
Il l'a fait,
c'est Modestie. Non, mais c'est fait sur un procédé qui, au bout d'un certain temps, moi, commence à m'ennuyer. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous voyez est faux. Alors, voilà, on nous dit une fois. Vous voyez ça? Bah, c'est faux, c'est virtuel. Deuxième fois, là.
Pierre,
ouais. Bah non, mais c'est ça. Mais oui, c'est fait sur ça.
Un petit peu le coup de théâtre du film.
C'est fait sur ça. Ouais. Bah oui, bah alors, bon, au bout d'un certain temps, moi, ça m'embête. Voilà.
Bah oui. Profitons-en pour rappeler quand même qu'Alain René a failli tourner un Spider-Man.
Oui.
Absolument.
On a eu chaud.
C'était un projet. Non, ça aurait été génial.
On me demande mon avis. Je dis, je suis un peu embêté. Voilà, c'est tout.
Tu t'es embêté jusqu'au bout. Rick, tu ne l'as pas vu?
J'attends la suite.
Spider-Man, allez, le temps est venu des conseils. On va commencer avec Pierre.
Bah, je suis désolé, je vais retomber dans mes défauts. Alors, très rapidement, un DVD, là. Pardon, excusez-moi, je le ferai plus, mais de Billy Wilder, qui s'appelle...
Allez, on va rentrer à l'hôpital.
Qui s'appelle 1, 2, 3, qui vient de sortir en Blu-ray chez Rimini, et c'est génial, c'est en gros, très vite, c'est l'histoire d'un... Ça se passe à Berlin en 1961, et c'est l'histoire d'un jeune communiste pur et dur qui devient en 24 heures un patron capitaliste pour une marque de... Oui, genre Coca-Cola. Et le deuxième conseil, très rapidement, c'est à partir du 10 juillet, la reprise d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle c'est la journée des chiffres, après 1, 2, 3, j'ai deux ou trois choses que je sais d'elle, qui est un très très bon Godard, pas très connu, où il y a par exemple, il y a le tout jeune Christophe Bourseiller qui demande qu'est-ce que c'est que le langage, et Marina Vladi répond, le langage c'est la maison dans laquelle l'homme habite. C'est
le conseil d'Éric.
Un événement, c'est la sortie de La Flore en DVD qui dure 815 minutes. Rassurez-vous, il n'y a pas de bonus. Hein. Et c'est un des films les plus incroyables qui existent dans l'histoire du cinéma. C'est un hommage au cinéma, aux actrices, à l'invention. Et c'est une expérience complètement extraordinaire.
Qui sort très vite après sa sortie sur les écrans, d'ailleurs.
Ouais, et c'est un peu comme si on perdait son pucelage une deuxième fois d'aller voir ce film.
Mon conseil, c'est un livre, ça s'appelle « Je ne sais rien d'elle », signé Philippe Mézéscaz aux éditions Marest. Ça se passe en 2017 à La Rochelle, où il a grandi d'ailleurs. Mézéscaz assiste au tournage du premier film de Nicolas Giraud qui s'appelle « Du soleil dans mes yeux », qui est tiré de son propre livre « L'impureté d'Irène ». Son enfance, très violente, il faut dire, très douloureuse, il la revoit et il la revit sur ce plateau où sa mère folle avait les traits de Clara Ponceau, sa grand-mère ceux d'Hélène Vincent, et où le petit Noah Benzakem, 7 ans et demi, jouait l'enfant qu'il a été. Vraiment une expérience très singulière que le romancier confronté à sa propre incarnation sur un plateau de cinéma. Et dit, ce film a rétabli mon enfance défaite. Très beau livre, tu l'as lu aussi, Xavier ?
Oui, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il avait écrit deux garçons sur son Absolument. Aventure amoureuse et
théâtrale. Et à la fin du livre, d'ailleurs, on voit apparaître Guibert, Bernard Giraudot à La Rochelle et Hervé Guibert.
C'est un excellent écrivain et effectivement, ce bouquin est magnifique.
Le conseil de Daniel ?
Alors, un film... Rojo,
Rouge,
de Benjamin Neustadt. C'est le troisième film d'un jeune réalisateur argentin. Et c'est un thriller, un véritable thriller. Ça se passe juste avant le coup d'État, en Argentine. Il y a un avocat très puissant, on l'appelle docteur, très 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 puissant, qui se trouve mêlé à un fait divers, malgré lui. Et il pense qu'il est totalement impuni. Et c'est évidemment, il y a un flic, un détective, qui va pas le lâcher. Et c'est à la fois un thriller social, politique et humain, et c'est formidable.
Le conseil de Xavier.
Je le partage déjà avec Daniel, c'est remarquablement écrit et mis en scène. Juste un petit mot à la mémoire d'Edith Scob, qui nous a quittés il y a une dizaine de jours, et je trouve que les hommages ont manqué vis-à-vis de cette immense comédienne. Donc,
qui était justement aux côtés de Denis Lavant,
chez Carax. Et mon conseil, c'est So Long, My Son, de Wong Shuo-Chai, qui est un cinéaste chinois. C'est une fresque sur 3 heures et sur 30 ans, qui mélange les époques, qui revient en arrière sur les conséquences de la politique de l'enfant unique. C'est du mélo flamboyant, c'est politique également, c'est romanesque, c'est remarquablement intelligent et remarquablement interprété. Les deux comédiens ont d'ailleurs été récompensés à Berlin pour l'homme et pour la femme. Ne manquez pas ça, c'est vraiment un des grands films avec Roro de l'été.
Tous ces conseils très variés, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Éric Nehoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique au théâtre de l'Alliance française, il y avait ce soir, et je les remercie, Cédric Châtelu, Julie Garraud, Laetitia Delgado, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Attention, le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le vendredi 12 juillet. Ce sera au site Louis Pasteur, Université d'Avignon, de 14h30 à 16h30. Vous l'avez compris, pour deux émissions consacrées à la 73e édition du Festival d'Avignon. Dans une semaine, on parle donc de théâtre. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.